l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Norbert Schwab, délégué du KKL Strasbourg et président de la CEJAL, la Société pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine, anciennement CHIAL. Norbert Schwab, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer. On n'avait pas encore eu l'occasion de se rencontrer.
Non, pas directement, on s'est croisé, mais on n'a encore pas eu l'occasion de se rencontrer.
Alors moi j'aimerais savoir et connaître qui est le personnage qui est derrière ce sourire qu'on croise souvent ici dans les locaux du consistoire, la personne engagée pour la préservation du patrimoine et également engagée pour la transmission de ce savoir autour du patrimoine juif ici à Strasbourg, en Alsace, parce qu'on en reparlera après, la CHIAL prend ses racines à Mulhouse, donc on va parler plus globalement de l'Alsace, mais le patrimoine juif rural également, et ces points où on peut retrouver tout ce qui est lié à la communauté juive, et notamment au musée d'histoire de Strasbourg, au musée alsacien, précisément. Alors dites-nous, Norbert Schwab, on sait que vous étiez professeur d'histoire ici à Akiba. Quel est votre parcours? Vous avez été nourri au biberon de l'histoire? C'est quelque chose qui vous a toujours touché?
Alors l'histoire, oui, toujours, m'a toujours touché. Alors l'histoire m'a accompagné. Disons que de ma bar mitzvah, je me souviens d'un cadeau qui m'a été fait, ou de plusieurs cadeaux qui étaient en fait des livres d'histoire dans lesquels je me suis plongé et qui m'ont fasciné. Et donc, ça a quelque peu déterminé ma vocation, qui a fait que j'ai fini par être professeur d'histoire, de géographie, mais pas que, puisque j'ai aussi enseigné l'économie, j'ai enseigné le droit. Enfin, je suis un polyvalent de l'enseignement. Alors, pour répondre à votre question, je pourrais aussi dire que je suis un juif alsacien, un juif du terroir. Alors, en tout cas, du côté de mon père, puisque du côté de ma mère, je m'enracine plutôt du côté allemand, puisque ma mère vient d'une vieille famille juive allemande qui était installée depuis le 15e, 16e siècle dans la région de Mayence. Et du côté de mon père, je suis un juif alsacien, puisque j'ai pu remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Notre famille, cette famille Schwab-là, en tout cas, elle a ses racines du côté de Nimringen et de Dellingen, qui sont deux petits villages de l'Alsace-Bossue, où des juifs vivaient déjà au XVIIIe siècle. Avant, je ne sais pas. Alors, en ce qui me concerne, mon histoire, en fait, c'est une histoire qui résume assez bien l'histoire ou l'évolution du judaïsme en Alsace, puisque si je suis né comme, j'allais dire, normalement tout le monde, à la clinique Hadassa à Strasbourg, j'ai grandi à la campagne. Jusqu'à mon 15e anniversaire, j'habitais avec mes parents à Nimringen et ensuite nous sommes venus à Strasbourg. Et donc j'ai eu la chance de voir, de vivre encore, un peu la fin du judaïsme rural alsacien. Qu'est-ce que ça voulait dire être un juif à la campagne? Alors même si c'était sûrement plus aussi glorieux, c'était plus aussi développé que ça avait pu l'être 50 ou 100 ans auparavant, il restait des traces, il y avait encore une vie juive locale. Et puis quand je suis venu à Strasbourg, ben, j'ai découvert d'abord à Bichheim, puis ici à Strasbourg, eh bien, la vie des juifs urbains, les différences qu'il y avait, les complémentarités qu'il y avait.
Et vous avez été élevé, vous, dans les lois du judaïsme? Vous avez eu une éducation religieuse?
Ben, disons que oui, je suis, alors moi je me définis comme un juif dans la tradition et je viens d'une famille juive traditionnelle en fait. Quand on était à la campagne, quand on était juif, bah, c'était presque naturel d'avoir une éducation juive. On vivait les grandes fêtes. Shabbat était peut-être un peu moins marqué, mais les grandes fêtes étaient marquées. On allait à la synagogue parce qu'il fallait faire minyan. Et puis, il y avait une vraie vie juive et ça ne se discutait pas.
Vous alliez à l'étude également?
Alors, j'ai commencé, comme tout bon juif alsacien de la campagne, même peut-être de la ville, j'ai commencé par aller au Talmud Torah. Enfin, plutôt le Talmud Torah est venu à moi, puisqu'on avait, dans le cadre du Concordat, on avait une heure d'éducation religieuse par semaine. Et donc, M. Nossiciel, qui était ministre officiant à l'époque à Ingviller, venait à nous donner, on était quoi, 5, 6 juifs de Nimringen, venait nous donner une heure par semaine ou deux heures par semaine de l'enseignement religieux. Donc, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris les rudiments de la tradition juive avec lui. Il m'a aussi également préparé pour ma bar mitzvah. Et puis, c'est en arrivant à Strasbourg que j'ai eu la chance de rencontrer le grand rabbin Lederer, Zichrono Livracha, qui m'a, lui, vraiment introduit dans l'étude, la découverte des textes, la Mishnah, la Gemara, etc. Ce qui m'a permis de me former, d'affirmer mon identité juive.
À quel moment, vous aviez quel âge quand vous avez été babysitter du grand rabbin actuel, Harold Avraham Weiler? On l'a croisé dans les studios quelques minutes avant et il nous a dit ça et je dis ouais, c'est assez anecdotique que c'est vous en fait qui avez biberonné le grand rabbin. Bah,
vous connaissez son âge?
Bon, il doit avoir une quarantaine d'années.
Voilà, donc c'était il y a 40 ans, on était voisins et j'ai assisté, je l'ai biberonné, j'ai surtout assisté à son pignon à benne. Donc c'est le premier souvenir que j'ai avec le grand rabbin, le jour du pignon à benne, où on était chez lui, enfin chez ses parents, et où il a été racheté. Et donc oui, je l'ai suivi en tant que jeune homme, je l'ai vu, je l'ai croisé, puis un jour il est devenu grand rabbin et maintenant je le recroise en tant que grand rabbin.
Et vous lui dites « Monsieur le grand rabbin »
Oui, officiellement, oui, on va dire.
Alors, à quel moment la culture juive, le patrimoine, et surtout la défense de ce patrimoine, à quel moment vous vous êtes investi, vous avez senti, c'est peut-être quand vous avez quitté la vie rurale, vous le disiez, cette vie juive dont il existe hein, encore quelques stigmates dans les villages en Alsace. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, il y a quelque chose dont je veux prendre la défense et être un défenseur
hein. Non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est venu plus tard, beaucoup plus tard. C'est venu il y a maintenant un peu plus de 30 ans, je crois 32, 33 ans, puisque c'est au moment presque la naissance de mon premier fils. Je suis allé, un peu par hasard, un peu par goût, je suis allé à un colloque de l'époque de la Chiale. Et donc, de ce colloque, il y a eu des interventions qui étaient très intéressantes. Il y en a une qui m'a profondément marqué et qui a motivé mon engagement. Alors, c'était une intervention de Günther Boll, qui était un historien allemand, un chercheur allemand, et qui racontait le sauvetage qu'il avait fait de façon tout à fait extraordinaire des Mapotes à Mackenheim. Il était arrivé, il travaillait sur Mackenheim, sur le cimetière de Mackenheim. La synagogue de Mackenheim, à ce moment-là, avait été désacralisée, était en train d'être transformée pour devenir ce qu'elle est toujours aujourd'hui, un centre culturel. Et il arrive un jour dans ce village et il voit qu'on est en train de sortir tout ce qui se trouvait dans la synagogue. Et il dit, mais vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Ben, on l'amène à la déchetterie. Et il fonce à la déchetterie. Et il tire, il sauve vraiment des flammes, puisque c'était en train de brûler, il sauve des flammes à peu près 400 mapotes, qui sont aujourd'hui un de nos trésors, avec des mapotes qui remontent au XVIIe siècle, donc qui sont relativement anciennes. Et je veux dire, cette intervention m'a profondément marqué, et a marqué le début de mon engagement auprès de la Chiale. Alors j'ai commencé par être membre, puis j'ai intégré le bureau pour être pendant de nombreuses années le trésorier. Et puis je me suis toujours dit qu'au moment où je serai à la retraite, ben, je pourrais prendre un engagement plus fort. Et avec l'évolution, ben, je me suis retrouvé vice-président et maintenant président de cette société qui s'appelle maintenant la Céjal.
Alors la Céjal, elle est née, alors c'était à l'époque, vous le disiez, la Chiale en 1905. Hein,
Gesellschaft für die Geschichte der Juden Elsass
Lothringen. C'était à Mulhouse, effectivement, voilà. allemande à l'époque.
Voilà.
Et c'était quoi l'objet au départ de cette association?
Alors, au départ, c'est une réaction à un projet qui avait été lancé, alors semble-t-il par les communautés allemandes ou éventuellement par le Nébrite allemand, qui avait une idée qui était de créer à Berlin un grand musée du judaïsme. Et pour alimenter ce musée, ils ont envoyé un conservateur faire un peu le tour des communautés pour voir ce que l'on pouvait récupérer, sauvegarder et mettre dans ce musée. Et donc ce conservateur arrive en Alsace, il fait son tour et là, il se trouve que les Alsaciens, alors les raisons sont difficiles aujourd'hui à retrouver puisqu'on a perdu grande partie de nos archives, mais les Alsaciens décident que non, il n'est pas question que leur trésor finisse à Berlin. Et donc se crée à ce moment-là, autour du rabbin Ginsburger qui était rabbin du côté de Mulhouse, se crée une association, la fameuse Gesellschaft für die Geschichte der Juden im Elsass-Lothringen, qui commence dès 1905 à faire donc un travail de collecte, qui va continuer pendant plusieurs décennies, un travail de collecte d'objets, de livres, d'écrits divers et variés. Et donc cette société cherche un lieu pour sauvegarder, entreposer tout ce qui a été retrouvé. Et donc, un partenariat est fait dès 1907 avec le musée alsacien à Strasbourg, qui est le dépositaire de nos collections depuis cette date.
Ah, ça date déjà du début du siècle?
Début du XXe siècle. Depuis le début du XXe siècle, il y a au musée alsacien, alors sous des formes qui ont évolué, mais il y a au musée alsacien une salle juive.
Il y a une salle totalement dédiée à la culture juive, avec effectivement les objets. Alors,
une partie, des objets qui, de notre société. Alors, il y en a beaucoup plus dans les réserves que dans la salle juive. Il y a une salle, il y a même une petite synagogue qui est reconstituée, notamment à partir d'éléments qui viennent de la synagogue de la rue Sainte-Hélène, la première grande synagogue de Strasbourg. Et donc, il y a donc cette salle juive. Et je sais que le musée alsacien est aujourd'hui en train de repenser la logique de ses collections. Et donc, la présence juive y sera toujours importante, mais elle sera intégrée dans une autre vision plus large et qui montrera non pas le judaïsme comme un élément à part dans l'histoire de l'Alsace, mais comme quelque chose qui est intégré dans l'histoire de l'Alsace, qui est un peu notre objectif, faire comprendre au public, au sens le plus large possible, que l'histoire des Juifs en Alsace, que l'histoire du judaïsme en Alsace, c'est une partie de l'histoire alsacienne.
Clairement, c'est l'histoire des Alsaciens, des Alsaciens, de la population juive, qui remonte même avant le Moyen-Âge. On retrouve des traces de la vie juive à Strasbourg et dans toute la campagne, en milieu rural.
Alors, la présence juive en Alsace, elle n'est datable que du XIIe siècle. Qu'il y a eu des Juifs qui aient pu passer en Alsace avant, oui, parce qu'il y avait des Juifs dans la vallée du Rhin, c'est vrai. Mais l'Alsace était, semble-t-il, une région peu importante, périphérique, loin des grandes routes commerciales. Ce n'est qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle que l'Alsace se développe économiquement et que la présence juive s'affirme d'abord dans les villes et puis après la période de la Grande Peste, c'est-à-dire après les massacres du XIVe siècle, à partir donc du XVe, XVIe siècle dans les campagnes.
Quelle est l'interaction de la Céjal avec le public? Alors, cette association est dite savante, hein, quand on va sur Wikipédia. Quelle est son interaction avec le public, le grand public?
Alors, notre interaction, c'est d'apporter le plus possible au grand public et au public la connaissance. Alors, traditionnellement, la Céjal a plusieurs activités tournées vers le public. La plus connue, la plus importante pour nous, c'est le colloque que nous organisons maintenant depuis plus de 40 ans et qui permet à des historiens à la fois professionnels mais aussi amateurs de faire connaître leurs travaux et de les faire connaître au public qui est présent dans la salle, de les faire connaître aussi, de les diffuser aussi, soit par écrit, soit aujourd'hui par Internet. Donc de créer, de faire émerger la connaissance du judaïsme. À côté de cela, deuxième grande activité que nous faisons depuis de très nombreuses années, nous organisons chaque année une sortie sur le terrain pour découvrir les traces du passé, les traces de la présence juive dans la région, mais pas seulement dans la région, on est aussi allé dans les Vosges, on est allé en Lorraine, on est allé et on va aller en Allemagne, puisque tout cela fait partie du même patrimoine. Et puis, plus récemment, on a mis en place ce qu'on appelle le prix du patrimoine de la Céjal, prix Marianne Lévy, qui est un prix qui est destiné à mettre en valeur le travail de sauvegarde du patrimoine qui est fait par des personnes, juives ou non juives, et qui s'investissent pour sauvegarder ce patrimoine. Alors cette année, dimanche dernier, nous avons remis ce prix à l'association qui s'occupe du cimetière d'Ettendorf, puisque c'est un élément exceptionnel du patrimoine alsacien, juif et alsacien. Et donc, pour attirer l'attention et sur leur travail, sur leur engagement, eh bien, nous avons décidé de leur remettre le prix le prix du patrimoine de la Céjal pour l'année 2023.
Un prix honorifique,
Oui, malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'abonder financièrement. C'est un prix honorifique, mais c'est une reconnaissance. C'est un moyen de faire connaître au plus grand public, en tout cas au public local, l'existence de ce patrimoine et l'engagement d'un certain nombre de personnes pour le défendre.
Quel est votre lien, vous, avec le consistoire, donc ici à Strasbourg ou peut-être à Mulhouse également? Quel est votre lien, de quelle façon vous interagissez avec le consistoire?
Vous
faites partie du consistoire.
Juridiquement, mais on est à la disposition du consistoire, on est là pour aider le consistoire, pour lui apporter notre expertise. Dire que nous sommes les historiens ou les meilleurs connaisseurs, nous essayons d'être les meilleurs connaisseurs possibles du patrimoine juif local, de l'histoire des juifs locaux. Et donc, chaque fois que le consistoire a besoin d'une intervention historique, eh bien, nous sommes là pour l'aider à mettre en place des différentes manifestations et pour l'aider à valoriser le patrimoine, puisque c'est aujourd'hui aussi une des priorités du consistoire.
Parler du patrimoine, c'est également parler de la mémoire. Alors, on sait que le travail de mémoire autour, notamment, de la période de la Shoah est important. Aujourd'hui, d'autant plus que les derniers témoins disparaissent petit à petit. C'est quelque chose également que vous mettez une énergie particulière ou une interaction avec le public ou le grand public au moins.
Alors, la mémoire, oui. Alors, notre dernier colloque avait comme titre Héritage. Héritage parce que notre idée, c'était de montrer à travers ce colloque les différents aspects de cet héritage, qu'il soit un patrimoine matériel auquel on pense tout de suite, les synagogues, les cimetières, les mikvés qui peuvent exister, mais aussi tout le patrimoine immatériel, y compris la mémoire. Et bien sûr, dès que l'on s'intéresse à notre passé, on se heurte, on est frappé par les événements du XXe siècle. Et donc, bien entendu, nous parlons régulièrement de ces événements. On a fait le colloque 2022, porté d'ailleurs sur « Vivre les Juifs d'Alsace-Lorraine dans la tourmente », qui nous a permis de retracer un certain nombre de parcours de ces Juifs alsaciens-lorrains. Mais je crois qu'il ne faut pas se limiter. Alors, c'est très important. L'histoire de la Shoah, oui. L'impact de la Shoah, c'est très important. Et dans la mesure où moi, je me consacre, me centralise plutôt sur le 19e et 20e siècle, c'est quelque chose dont je mesure toute l'importance. Mais je crois que c'est aussi très important de marquer l'importance de la résilience des communautés juives qui, malgré finalement des situations qui parfois étaient dramatiques et qui paraissaient sans espoir, ont réussi à se maintenir, ont réussi à se développer, ont réussi à produire aussi bien des œuvres, j'allais dire, matérielles qu'immatérielles. Et tout cela mérite d'être dit, d'être reconnu, d'être connu. Et je crains que, et je constate que malheureusement, aussi bien, je dirais, chez les jeunes générations de public scolaire que chez les adultes, eh bien, c'est une histoire qui est très rapide, qui est mal connue. On a quelques idées qui parfois sont fausses, qui sont imprécises. Et donc, notre ambition pour les prochaines années, c'est d'apporter, alors d'abord au public juif, mais aussi au public alsacien en général, une meilleure connaissance de ce qu'est le judaïsme, de ce qu'était la place des juifs et du judaïsme en Alsace, et de leur faire mesurer toute la richesse de ce patrimoine.
C'est pour cette raison que quand vous vous êtes présenté, alors souvent, il y a une espèce de curseur de sa naissance après-guerre et en fait, on évoque souvent le passé de ses parents, déportés ou non. Vous n'en avez pas fait mention du tout.
Ben, disons que ça, c'est un autre sujet sur lequel je travaille également. À titre personnel, je m'intéresse à la généalogie de ma famille. Et j'ai comme ambition de retracer dans la mesure du possible le parcours de mes parents, de mes grands-parents, aussi bien maternels que paternels, durant le XXe siècle. Alors c'est plus dans un premier temps un travail que je dessine à ma famille, mais je pense que je sais qu'il y a un certain nombre de destins qui sont particulièrement dramatiques, mais aussi en même temps particulièrement intéressants, et que je voudrais faire partager. Alors, sous quelle forme et à quel moment, ça je ne sais pas encore. Je suis au début de mon travail, et donc là, il y a toute une recherche à faire pour compléter, pour essayer de comprendre des cheminements qui sont parfois pour nous étranges.
Vous parliez de début de travail, Norbert Schwab, insatiable en fait, au niveau de la connaissance de soi, de son histoire, de l'histoire du judaïsme en général et de la grande histoire de notre pays de toute façon.
Ouais, je dis toujours professeur un jour, professeur toujours. Donc je suis curieux, je reste extrêmement curieux de tout ce qui m'entoure et je ne vois pas pourquoi, du fait que je serai maintenant jeune retraité, je devrais arrêter de m'intéresser, de me passionner, de m'engager et surtout de transmettre, parce que je pense que en tant que homme d'expérience ou homme expérimenté, j'ai sûrement un certain nombre de choses que je peux transmettre aux jeunes générations dans la mesure de mes moyens.
Mais écoutez, on espère que ça dure le plus longtemps possible et toujours cette lumière dans les yeux, cette flamme. Et bon, un regard de gamin quand même, quelque part, qui a encore tout à découvrir.
Ah, c'est ça, restez jeune.
Jusqu'à 120 ans. Allez, merci Norbert Schwab. Donc, je rappelle, président de la CEJAL, vous êtes également délégué du KKL Strasbourg. On en parlera lors d'une autre émission, parce que là, aujourd'hui, c'était plutôt autour de la CEJAL et puis vous, de votre parcours. Merci en tous les cas d'avoir répondu à mes questions.
Merci de m'avoir invité.
l'invité de la rédaction, Valérie Vial.